Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
C'est parfait.
Cool.
Je suis là, moi, du coup, hein.
Bon.
Ok. Ah, voilà. Alors, par contre, maintenant, il faut qu'on ait la vidéo. Vous voulez que je relance un appel? Ça a raccroché? Non, on voit encore?
Non, toi, t'es, toi, t'es parti. Bien, il faut que tu nous rejoignes.
Ah, d'accord.
Je suis très fière de voter. Et j'espère que toutes les femmes auront rempli leur devoir.
Ressemblez à mes parents? Ah non, pas du tout.
Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes.
Moulinex libère la femme. Libère la femme. Libère la femme.
Bah, qui on va fréquenter? Les grand-mères?
Mamie dans les orties est un podcast qui recueille les récits de nos grand-mères. On y écoute des histoires dans l'histoire. Parce qu'il est nécessaire de comprendre d'où l'on vient pour savoir où l'on va. Ici, on écoute les premières qui ont le droit de voter, d'avoir un chéquier à leur nom, de divorcer, d'avorter, finalement, de vivre de plus en plus librement. Nous sommes Héloïse et Marion, et aujourd'hui, nous rencontrons Maryse.
C'était ma passion, en fait, c'est ça.
Oui, je vous entends. Ah, je vous entends bien. Ouais.
Nous avons rencontré Maryse virtuellement, en plein confinement. Malgré la distance, nous avons passé un long moment derrière nos écrans, en oubliant presque que nous ne partagions pas une tasse de thé. Rencontrer Maryse, c'était un vent de liberté et de voyage, alors que nous étions enfermés chez nous. Elle a eu une vie remplie d'aventures.
Attends, parce que le son, maintenant, il est sorti sur son téléphone.
Oui, je vous
entends. C'est bon, c'est parfait.
C'est bon ?
Je vous entends bien. Alors, comment puis-je vous raconter ma vie ? Qui je suis ? J'ai 87 ans cette année et je suis mamie depuis 30 ans déjà. Bon, alors ma vie vraiment a été très animée. Mais c'est difficile pour moi de vous raconter sans vous montrer toutes les images. En tout cas, je vais essayer. Hein. Je suis la deuxième et mon frère est né 5 ans après nous. Alors, mes grands-parents ont tous vécu à proximité de chez nous et nous étions tous à la campagne. Et le village s'appelait Malocène, dans le Vaucluse, et nous habitions à 3 km du centre du village. Eh bien, j'ai donc les souvenirs de où nous allions à l'école, j'ai le souvenir de la maladie, des parents, j'ai le souvenir d'une vie d'enfance disons, pas très, très, très heureuse, quoi. Parce que, en fait, mes parents étaient dans l'agriculture, ils avaient beaucoup de soucis, ils étaient très préoccupés, donc, et nous étions très aimés, mais c'était pas l'amour intense comme l'on peut vivre, c'était un respect, c'était un amour, comment dire, difficile à expliquer. Donc, je me souviens surtout des maladies de mes parents. Donc, ma maman, qui était immobilisée souvent et qui avait cette maladie de rhumatisme qui l'a paralysée au lit. Quant à mon papa, avait lui un ulcère très très important qui le faisait beaucoup souffrir et malgré tout, eh bien, il nous élevait le mieux possible. Je me souviens de lorsqu'il était obligé de s'occuper de nous parce que maman était alitée, il nous faisait prendre des bains, il nous dorlotait, il était très très affectueux avec nous, quoi.
Du coup, ils étaient agriculteurs, c'est ça ?
Voilà, agriculteurs.
Et vous aidiez un peu ou...
Alors, oui. Là, pendant les vacances scolaires d'été, nous étions bien mobilisés pour les aider, oui, bien sûr. Notamment, ils avaient une exploitation de fruits, notamment des pêches, par exemple. Et là, on arrivait à extraire à peu près 3 tonnes tous les 2 jours, par exemple. Vous voyez, pour vous donner un exemple de pêche. Dans les vacances, nous étions contraints d'aller cueillir avec eux les pêches, les abricots, cueillir le tilleul, parce qu'à l'époque, il y avait une grande cueillette du tilleul. Déjà, la déclaration de la guerre, qui résonne encore dans mes oreilles, lorsque toutes les sirènes des villages avoisinants sont mises à sonner pour nous prévenir de cette grosse catastrophe. Et je me souviens de la réaction de mes parents qui ont été très peinés, puis qui ont même pleuré. Je me rappelle maman pleurer de voir, d'entendre ces sirènes. Ça a été très, très dur. Ensuite, mon père a donc n'a pas fait la guerre. Il est resté chez nous et il a pourtant défendu aussi le pays parce qu'il a aidé tous les maquisards qui étaient dans les montagnes alentours. Il les a aidés, il a apporté la nourriture, il leur a même quelquefois permis de faire des petites réunions dans le garage pour les distraire avec de la danse, c'était tout caché. Il ne fallait surtout pas que les voisins, le voisinage soient au courant de quoi que ce soit. Ils nous défendaient absolument de parler, ils nous interdisaient de communiquer avec le voisinage parce qu'il y avait beaucoup de... comment on appelait ces gens-là qui allaient rapporter aux Allemands des histoires qu'il ne fallait surtout pas qu'ils connaissent, quoi. Donc, tout se faisait en cachette. Je me souviens même un jour où il y a eu un incendie, justement, qui était dû à tout ce qu'ils faisaient à l'intérieur pour aider les maquisards. Donc, il y a eu un incendie. Et moi, prise de panique, je commençais à courir vers les voisins pour chercher de l'aide. Et mon père a juste eu le temps de me rattraper en me disant « Maryse, rentre vite à la maison !» Il ne fallait surtout pas divulguer quoi que ce soit, quoi. J'avais un oncle qui habitait justement à l'entrée du village. Je l'ai vu arriver un jour avec une charrette, son cheval, des valises. Et on lui a dit « Mais où vas-tu ? Où vas-tu ? » ?»« Ah ben, je vais dans la montagne, faire quoi ?»« Eh bien, je vais me cacher parce que les Allemands vont me... » Alors, c'était la catastrophe, quoi. C'était vraiment très, très, très triste. Des moments très, très difficiles à vivre.
Comment c'était l'école quand vous étiez enfant ?
Déjà, nous étions très assidus. Et malgré le froid et malgré les 3 kilomètres qui nous séparaient de notre école, nous n'avions aucun manquement. Nous étions toujours présentes. J'aimais l'école, mais ce n'était pas ma préoccupation. C'était pas ma... Non. J'adorais courir, j'adorais sauter, j'adorais danser, j'adorais... Et c'était plutôt, voilà, faire des farces. Voilà, j'étais plutôt espiègle, quoi, voilà. J'ai rejoint le collège de jeunes filles à Carpentras, dans le Vaucluse. Et j'ai commencé des études commerciales. C'était pas évident non plus. C'était très difficile, étant interne, de rester comme ça tout le temps sans voir la famille, sans voir... Et c'était pendant la guerre aussi, donc. Et il y avait des pressions. Nous étions occupés par les Allemands à l'époque. Et ils avaient réquisitionné la moitié du collège, par exemple. Il y a eu quelquefois des petites histoires qui n'ont pas été tellement diffusées parce que ce n'était pas le moment de diffuser ces histoires-là parce que les représailles des Allemands risquaient d'être importantes. Par exemple, c'est la première année où ma sœur était au collège et elle était dans la nuit dans un dortoir où elles étaient environ une quinzaine. Et dans la nuit, eh bien, il y a eu une infiltration des Allemands. Elles ont eu très peur. Et ça, elles ont été ensuite renvoyées dans leur famille pour digérer la chose. Et la directrice de l'école avait prévenu les parents qu'il fallait être très discret et surtout ne pas divulguer cette histoire qui aurait pu dégénérer. Donc, à la suite de ça, ma sœur a été gravement fatiguée. Elle a eu des séquelles parce qu'une peur très importante. Et elle en était restée un peu, comment dire, muette. Vous voyez, qu'il a fallu intervenir pour qu'elle ait des soins parce que ça l'avait vraiment perturbée, cette histoire. Je ne sais pas si on peut raconter ces choses-là, quoi.
Maryse a un don pour mettre des images sur ses mots. On se voit dans les champs de Provence à ramasser les pêches avec elle. Mais on imagine aussi très bien cette scène dans l'internat des filles qui nous glace le sang. Ses études finies, Maryse peut démarrer sa vie professionnelle.
Donc je suis arrivée jusque à présenter le brevet. Et à ce moment-là, j'ai eu l'opportunité justement de présenter un concours pour rentrer dans l'armée de l'air. Donc, je commence mon engagement dans l'armée de l'air en 1952.
Le concours de l'armée de l'air, c'était un concours pour être sténodactylo dans l'armée, c'est ça ?
C'était pour être secrétaire sténodactylo. Donc, moi, j'étais recrutée sténodactylo. J'ai fait donc plusieurs bases, on appelle des bases aériennes. J'ai été recrutée à Aix-en-Provence. Ensuite, j'ai été affectée à Orange, à la base d'Orange. Ensuite, je suis allée à Paris et puis à Cognac. Enfin, j'ai fait plusieurs villes. J'ai été recrutée d'abord au service médical du ministère de l'Air. Et là, il y avait les visites des appelés. Un jour, l'adjudant-chef, qui était mon chef de service, avait décidé de me bizuter. Il a demandé à tous les appelés qui étaient appelés à la visite, qui devaient normalement, ils se présentaient tous en file indienne, à poil, enfin, tout nu, et passer la visite. Sauf qu'au lieu de les faire passer dans le couloir normal, il les a fait passer dans mon service, dans mon bureau. Et donc, me voilà devant toute une colonne de jeunes, complètement dévêtus, et moi, très surprise de la chose, je prends le premier bouquin que je trouve sous mes yeux, et hop, je me cache la vue. Mais on a bien ri avec cette histoire. J'avais tout mon temps pour aller faire pratiquer le sport qui me plaisait, par exemple. Et c'est là qu'a commencé mon aventure un petit peu sportive là-bas. Voilà.
Vous n'aviez jamais fait de sport avant ?
Si, je pratiquais beaucoup, même au collège. Et en fait, je me souviens qu'au collège, j'avais un professeur de gymnastique qui s'était bien intéressé parce que je lui donnais des satisfactions. J'étais toujours prête à faire des compétitions. Surtout qu'étant interne au collège, je n'aimais pas du tout aller en promenade tous les jeudis à l'époque. Eh bien, j'allais en promenade en rang par deux. Traverser la ville au pas, comme ça me déplaisait énormément. Alors, par contre, j'ai eu l'opportunité de m'inscrire dans l'association sportive qui me permettait de m'évader, d'aller au stade au lieu d'aller en promenade. Et ça, à partir de là, tout s'est vraiment déclenché là où j'ai pu réaliser que le sport était très important pour moi. Voilà, donc on faisait des petites compétitions et là, mon prof qui m'a dit, bien, écoute, si tu veux, pendant les vacances scolaires, est-ce que ça t'intéresserait de présenter un examen qui te propulserait prof de gym, par exemple? Alors, je lui ai dit, oui, bien sûr. Donc, j'ai adhéré à cette idée, puis mes parents aussi, d'ailleurs, ils étaient d'accord. Et sauf que j'avais préparé mon trousseau, parce qu'on était interne pendant 2 mois dans Aix-en-Provence pour préparer cet examen. Donc j'avais préparé mon trousseau, tout était fin prêt, jusqu'à ce que mon père était obligé de me dire non, je ne peux pas m'occuper de toi parce que maman est malade. Et donc tout s'est annulé. Je n'ai pas pu aller présenter ce concours. La vie, quelquefois, elle vous fait changer de... Mais vous savez, ça n'a pas duré, hein. J'ai compensé vite fait.
Quitter le sud de la France pour aller à Paris, c'était pas trop compliqué?
Disons que ça a été compliqué. C'est moi qui ai voulu changer. C'est moi qui ai demandé la mutation. Je m'étais fiancée avec un jeune sergent-chef qui était dans les transmissions d'armée de l'air. Et il est décédé d'un cancer. Et donc, la suite de ça, j'ai été très malheureuse. Donc, j'ai demandé à quitter Orange. J'étais à Orange à l'époque. Et j'ai demandé ma mutation pour Paris, pour changer vraiment d'atmosphère, d'ambiance et tout et tout. Je me déplaçais en moto à l'époque, je me souviens. Je me souviens même que lorsque je suis arrivée à Paris, j'ai dit à mon frère, dis donc, est-ce que tu pourrais me monter la moto? Parce que moi, à Paris, ça me plairait bien. Donc, il a mis 2 jours pour arriver avec ma moto à Paris. Sauf qu'il s'est retrouvé sur les Champs-Élysées sans savoir où aller, parce que je ne lui avais pas indiqué l'itinéraire valable. Après, j'ai fait la moto à Paris et je me souviens de ma fierté lorsque je passais le poste de police avec ma moto, comme ça. Ah, c'était des aventures. Non. Vraiment, vraiment. Oui, oui. La vie à Paris, oh là, c'était merveilleux. C'était merveilleux. Au début, on allait à la piscine. On allait à la piscine Molitor toutes les semaines. On y allait très souvent. On faisait du patin à glace. De la course à pied le matin de bonne heure là, et on allait danser aussi, on allait en boîte. on était un groupe de filles très soudées, puis on avait une vie vraiment un peu décousue, parce que comme nous étions logés dans une chambre, en fait, à nos âges, vous voyez, 24-25 ans, tout ça, c'était dur de vivre cette vie de... Et lorsqu'arrivait le soir, eh bien, on se regardait tout ça, toutes, puis on se disait alors, et allez, on décidait de partir en boîte, on décidait d'aller au cinéma, on allait aussi beaucoup voir les comédies musicales, des choses comme ça, on était beaucoup, on vivait le soir, on vivait la nuit, beaucoup. Je me souviens une fois, dans mon service, là où je travaillais à l'armée, il y a eu la mise à la retraite de notre général, le général Sarro. Et à cette occasion, il y a eu la fête. Et donc, on lui avait offert, je me souviens très bien, un chapeau melon. Et en même temps, voilà, pas que j'avais 25 ans à l'époque. Donc, en ce qui me concerne, il m'avait fait la fête aussi, il m'avait offert un chapeau des Catherinettes, voyez, que l'on met à cette occasion-là. Et ça représentait un manège de cœur. J'avais 25 ans, et à 25 ans, en fait, les Catherinettes, à Paris surtout, ça se fête beaucoup, à l'époque, à l'origine, ce sont les couturières, je crois, qui fêtaient ça, je ne sais pas, pour leurs 25 ans, lorsqu'elles étaient encore célibataires. Et donc, ils ont voulu, dans mon service, ils ont voulu fêter ça. Tant et si bien qu'après cette fête-là, je me suis retrouvée avec un énorme chapeau, ne sachant pas, alors mes copines m'ont dit « Oh là 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 là, on ne va pas en rester là, allez hop, on va partir ». Mais elles m'ont obligée à garder le chapeau sur la tête et à voyager. Et elles m'ont amenée au Moulin Rouge. Et je me vois toujours en train d'essayer de passer les portes du métro en baissant la tête parce que le chapeau était d'une certaine hauteur. C'était bien de m'emmener comme ça sans me dire où ni comment. En métro. Oh, il y avait toutes les danses, les marches, les cha-cha-cha. les rumbas, les tangos. Il y avait toutes les danses. On dansait à deux à l'époque. Hein. On dansait par deux. On dansait pas individuellement comme maintenant. C'est pas la même chose. Voilà, j'étais donc allée danser au Moulin Rouge avec mes deux camarades. Deux copines, et donc il y a eu à cette occasion un concours qui réunissait toutes les jeunes filles qui se présentaient avec un chapeau sur la tête pour fêter leur 25 ans. Et donc nous étions une cinquantaine à peu près, je sais pas, il y avait une élection qui nous permettait d'avoir un rang. Il s'en suivait donc un bal, une danse, et les danseurs s'inscrivaient en nous invitant à faire une danse, vous voyez. Ils s'inscrivaient sur une petite liste, ils choisissaient leur danseuse, si vous voulez. Et puis, voilà, donc à la suite de ça, de cette soirée-là, il y avait un danseur qui s'était inscrit et le dernier de ces messieurs-là m'avait gentiment demandé de me raccompagner parce qu'il était 2h du matin ou je ne sais pas quelle heure et évidemment les métros n'existaient plus. Donc j'avais accepté et il était tout content de me raccompagner sauf que je me suis retrouvée au vestiaire et je lui ai présenté mes deux camarades qui étaient avec moi. Pour qu'il les raccompagne en même temps. Alors là, il a été très, 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 très déçu. Mais bon, une petite farce, on a bien rigolé. Sinon, nous allions aussi voir des opérettes à l'époque. Il y avait beaucoup Louise Mariano, Georges Guettari, vous voyez, des opérettes comme ça qui nous plaisaient énormément. On avait beaucoup de distractions à Paris. Il fallait simplement avoir un petit peu d'argent pour pouvoir. Je me souviens que nos repas se limitaient souvent le soir à un œuf, un yaourt ou quelque chose comme ça. C'était très, très limité, nos repas. C'était pas quand même très drôle, la vie à Paris. Et finalement, je pense que le sport a été... J'ai considéré ça une distraction, quoi. Je voulais absolument trouver une occupation qui soit autre que le boulot, autre que le... Et voilà. Et donc, j'ai commencé un petit peu à faire de l'escrime, du vol à voile. Je m'y suis consacrée après.
Qu'est-ce que c'est le vol à voile ?
Alors, le vol à voile, c'est en fait un petit avion qui n'a pas de moteur. Et donc, on arrive à évoluer dans l'air grâce à des nuages, grâce à du vol d'ondes, grâce à différentes possibilités qui nous permettent de nous sustenter, même si le moteur n'est pas là, quoi, même s'il n'y a pas de moteur.
Le vol à voile, c'est un peu comme le planeur ?
Ah ben, c'est le planeur, en fait, le vol à voile. Il y avait un aéroclub qui nous accueillait. En tant que militaires, nous pouvions aller et voler à notre aise sans payer, vous voyez, sans frais supplémentaires, quoi. C'était gratuit pour nous et on pouvait évoluer, puis se perfectionner. Pour les pilotes, par exemple, souvent, venaient pour s'entraîner justement au pilotage. Et moi, ben, j'ai débuté là sans avoir aucune notion, mais je me suis aperçue vite que c'était vraiment très, très, très intéressant. On éprouvait beaucoup d'émotions. Mais bon, il fallait avoir le courage au départ, parce que c'était pas toujours... j'ai pas eu beaucoup de copines qui ont voulu m'accompagner. Hein. Elles étaient plutôt prudentes et puis non, ils n'ont pas voulu. Donc j'étais toute seule et je me suis quand même débrouillée.
Il ne devait pas y avoir beaucoup de femmes quand même qui faisaient ça, non ?
Alors justement, justement à ce propos-là, l'autre jour, je regardais j'avais fait un stage à Saint-Auban-sur-Durance. Et nous étions 35, je comptais sur la photo, nous étions 35. Et il y avait 4 femmes parmi nous. Il y avait 4 femmes. C'était vraiment très rare, très rare. Et j'ai eu l'occasion justement, pendant ce stage-là, de faire des épreuves un peu spéciales qui ne se trouvent pas partout, et à laquelle assistait la championne allemande de vol à voile, si vous voulez, d'abord, mais aussi de pilote de V1 pendant la guerre. Vous voyez, c'est une femme qui avait une expérience importante et qui venait faire ce stage-là parce que dans ce stage, on apprend vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et donc j'en ai profité, je me souviens des fois, je regardais le ciel, oh, aujourd'hui, oh, mais aujourd'hui c'est merveilleux, ça pompe aujourd'hui, oh, c'est merveilleux. Et mon adjudant-chef qui était là et qui m'écoutait, il commençait à dire, oh là, allez, fiche-moi le camp. Et je partais, j'avais pour une heure de métro, une heure de bus, mais ça fait rien, j'y allais. Moi personnellement, je crois que j'étais prise par cette envie de retrouver des émotions, d'avoir des sensations et de retrouver quelque chose d'inconnu. Voilà, je voulais me retrouver des sensations. Voilà. Et j'ai été servie, j'en ai eu beaucoup, vraiment, vraiment. Alors, par exemple, une autre histoire, tiens, qui m'est arrivée. Je suis partie un jour... Je suis arrivée au terrain, j'ai dit à mon moniteur, le temps est bon et tout, je pars. Je décolle, je vais faire mon épreuve. Alors il me dit, d'accord, vous avez votre carte ? La carte, j'ai dit non. Allez, fichez-moi le camp, décollez. Et je suis partie et j'ai pu faire mes 50 km et me poser où ? Pas loin d'un village, même dans le village pratiquement. Au moment où il y avait la sortie des classes, des écoles. Alors là, l'invasion, je revois toujours toutes ces élèves qui arrivaient sur mon planeur, qui voulaient tous toucher. Oula, c'était un moment épouvantable. Surtout qu'il y avait du vent, il fallait que je tienne l'aile d'un côté, que je les écarte de l'autre. Ils voulaient tout savoir et puis c'était une aventure. Et puis lorsque j'ai pu réaliser les 5 heures de vol sans descendre de mon planeur et que j'ai pu y arriver, quand je me suis posée, j'avais tellement été crispée, je ne m'étais pas rendu compte que lorsque j'ai posé le pied à terre, eh ben, je n'ai pas pu rester debout, j'ai dû m'allonger, j'avais mal partout. J'en faisais une fois par semaine et quelquefois deux lorsque j'avais du temps disponible. Entre midi et 2 heures, je pouvais pratiquer l'escrime. On avait un maître d'armes qui venait de l'extérieur pour nous enseigner, pour nous faire pratiquer et puis surtout nous préparer pour des compétitions dans l'armée de l'air. Donc, on y allait très souvent. Moi, j'allais souvent pratiquer entre midi et 2 heures jusqu'au jour où il me dit, mais écoute... Moi, j'entraîne l'équipe de France d'escrime à Paris. Donc, est-ce que ça t'intéresserait de faire partie de l'équipe ? Et évidemment, c'était une aventure à vivre, mais sauf que, en ce qui me concerne, j'étais un peu, ça me permettait pas de faire ce que j'avais envie. On m'obligeait à ce moment-là à respecter les horaires, à faire un entraînement sérieux, voilà, j'étais pas libre. Donc je l'ai refusé. À partir du moment où j'ai rencontré mon futur mari, eh bien, j'ai eu d'autres ambitions, d'autres idées, et j'ai voulu le rejoindre, donc j'ai quitté Paris, dans le centre de Vol-à-Voile où je pratiquais. Et ce qui fait que j'ai... Et puis ensuite, le mariage, et puis ça a été terminé. On a passé à autre chose. Voilà, on a passé à autre chose.
Le vol à voile est sans aucun doute la grande aventure de jeunesse de Maryse, qui crée les purs bonheurs et les vrais frissons. Une aventure qui débouche sur de nouvelles découvertes, celles de la vie de famille et du monde de l'entreprise.
Au cours de ce vol à voile-là que je pratiquais, j'ai pu faire des épreuves, pouvoir arriver à monter à 3000 mètres d'altitude. Et j'ai réussi. Avec beaucoup de difficultés, mais j'y suis arrivée. Au départ de ce vol, j'étais tractée par un avion remorqueur. Et nous avons été très, très chahutés. J'avais des différences de hauteur incroyables. Donc, j'étais très chahutée et inévitablement, j'avais des coups dans mon cockpit qui étaient très exigus. Donc, c'était très inconfortable. Parce que mon planeur montait et descendait encore plus vite que l'avion qui était devant moi. Donc, ça me faisait un décalage très important. Et puis, finalement, l'avion m'a lâché. Donc, j'ai été lâchée, je me suis retrouvée autonome. Et j'ai pu atteindre comme ça mon objectif. J'ai amorcé des spirales. Et j'ai pu atteindre mon objectif et j'ai gagné donc mes 3000 mètres en hauteur. Évidemment, au bout d'un certain temps, il a fallu que je redescende de mes hauteurs. Donc j'ai poussé sur le manche pour commencer la descente. Et je voulais aller tellement vite que mon planeur vibrait dans la descente, tellement j'accélérais. Bref. Je suis arrivée. Alors, pour vous expliquer qu'à la suite de cette épreuve, on fait un arrosage, c'est-à-dire qu'on fait une fête. Et là, j'ai fêté cette victoire des 3000 mètres, là. Et il a été invité à mon arrosage, mon futur mari. Voilà. Et c'est là que je l'ai connu et c'est là que j'ai commencé à le connaître plus amplement. Et puis voilà, il faisait son service militaire. Étant dans l'armée, il travaillait dans un service à proximité du mien. Il était secrétaire dans un pool de dactylos où il y avait beaucoup de filles qui travaillaient. Vous voyez ? Et donc c'est une de ces filles qui était ma copine. Et c'est elle qui l'avait invitée à ma fête. C'est par ma copine que j'ai connu mon futur mari. Et donc ensuite, quand j'allais retrouver ma copine, je le voyais, il était, voilà. Et petit à petit, eh bien, nous sommes rapprochés, quoi. Il avait 23 ans parce qu'il était naturalisé français, il était italien. Donc sa naturalisation française a demandé un peu de temps, donc il a fait son service militaire un peu plus âgé que les autres, c'est-à-dire il avait 23 ans, quoi. Ensuite, il a été démobilisé et il a quitté Paris pour regagner Cognac, là où il habitait. Et comme il y avait une base aérienne à Cognac, Eh bien, j'ai demandé à être mutée à Cognac. Et donc, voilà que j'ai retrouvé donc mon futur mari à Cognac en demandant ma mutation.
Et vous n'étiez pas encore mariée quand vous l'avez rejoint à Cognac ?
Non, 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 non. Ensuite, on a pris un appartement et on s'est mariés en 1960.
Et vous êtes tombée amoureuse de lui ?
Ah oui. Ah oui, 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 je suis tombée amoureuse, bien sûr. Et puis j'ai été bien. Et puis ensuite, on s'est mariés rapidement. Et l'année suivante, ma fille est née. Donc, on a fait un mariage très simple, mais on était heureux, 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 vraiment, vraiment, vraiment.
Et vous êtes tombée enceinte tout de suite après votre mariage ?
Un an après, le premier enfant. Alors, le premier enfant est arrivé sans qu'on ait le temps d'y réfléchir. Quant au deuxième, lui, par contre, on l'a décidé.
Vous preniez une contraception entre les deux, du coup ?
Ah ben, à l'époque, c'était une méthode. Une méthode spéciale qui fait que les rapports... Enfin, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette méthode où il fallait suivre les règles et puis s'abstenir au bon moment. Enfin, c'était tout... C'était assez... Heureusement que pour moi, je n'ai pas eu de soucis de ce côté-là. Mais bon... Il fallait respecter les règles à l'époque. On n'avait pas de préservatif, on n'avait pas tout ça pour nous aider. Hein.
Et vos grossesses se sont bien passées ? Il n'y a pas eu de soucis
La première grossesse, oui, elle a été assez dure. Enfin, difficile, non, puisque tout s'est bien passé, sauf l'accouchement qui a duré plus de 24 heures. Et en plus, je me souviens quand même qu'à l'époque, c'était pas aussi moderne que maintenant. Et j'ai dû accoucher dans mon lit parce qu'il n'y avait pas de place disponible dans les chambres particulières pour accoucher. Donc j'ai accouché dans mon lit et ça n'a pas été facile du tout, du tout, du tout. Mauvais souvenir. Il a bien organisé sa vie, il faisait les marchés tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et puis lorsque ma fille est née, alors on a décidé d'un commun accord d'acheter un pas de porte dans la rue principale de Cognac. Et là, on a ouvert un magasin. Et là, ça a été une aventure extraordinaire. On a ouvert un magasin. On a été bien sûr aidé par nos parents, sinon on n'aurait pas pu réaliser cette affaire si rapidement. Donc on a décidé d'ouvrir ce magasin et en s'associant avec un copain, parce que évidemment c'était une grosse affaire, mais il a continué quand même à faire son marché tous les jours, vous voyez. On a créé cette ouverture de magasin en décidant ça au mois d'avril, et nous avons fait l'ouverture à la fin de l'année en vendant des jouets pour la Noël. Et comme nous n'avions pas beaucoup d'argent liquide, tous nos achats se sont centralisés sur les jouets de Noël en nous disant, eh ben, ça passe ou ça casse, voyez. On s'est dit, si... les jouets ne se vendent pas pour Noël, on est fichu, c'est terminé. Donc, il avait tout misé là-dessus. Et je me souviens bien que lui, le jour de l'ouverture de ce magasin-là, c'était très important, mais il n'a pas voulu y assister. Il a dit non, moi je vous laisse, moi je vais continuer ma tournée, je vais faire mon marché, et puis ce soir, vous me donnerez des nouvelles. Et on a ouvert comme ça, et ça a été formidable. On a eu une foule incroyable, tant et si bien que lorsqu'il est rentré de son marché, nous lui avions préparé une belle farce en lui disant « la catastrophe, c'est la catastrophe ». L'été, mais alors on ne peut plus déçu. Et puis on n'a pas fait durer longtemps le suspense, on est allé chercher la caisse qui était complète. Et là, ça a été l'explosion. Et là, on avait réussi et après, ça n'a fait que progresser, quoi. On a eu une aventure incroyable avec ce magasin. Et puis un beau jour, mon mari a décidé qu'en fait, ben, il arrivait au bout de son... Il savait tout, il avait... Non, il fallait changer. Donc, automatiquement, il cherchait la solution. Il a trouvé. Lorsque les représentants qui le visitaient lui disaient « Oh, la belle vie que j'ai, moi, représentant, je visite toute la région du Sud, toutes les... et on a une belle vie. Quand on est représentant, on a une belle vie. » Il y a cru. Et donc, un beau jour, il a dit à son associé, « Allez, on vend nos parts, on te vend nos parts, et nous partons sur la route, représentants. » Et on a quitté le magasin, on a tout quitté, et nous sommes partis en caravane. Et nous sommes partis en caravane, visiter nos... Il avait créé sa tournée, une tournée petit à petit qui a grandi, dans les librairies, dans le bazar. Et nous vivions 6 mois de l'année en caravane. On a été les premiers dans le... Il n'y avait pas à ce moment-là de camping. On pouvait camper n'importe où, vous voyez. C'était une vie extraordinaire. Ma fille, elle profitait au maximum de cette aventure. C'était merveilleux. Sauf qu'à un moment donné, elle a eu 6 ans, il a fallu sédentariser. Et là, on avait un collègue, on avait un client qui habitait en Haute-Savoie et qui laissait son affaire. Et c'était une affaire de bazar. On revenait dans le bazar. Et donc, il nous a proposé de nous la vendre. Et voilà, on a accepté, on a quitté la représentation et nous sommes redevenus des sédentaires avec des camions. Il a créé 3 tournées quotidiennes avec des camions magasins, un camion magasin et 2 autres qui devaient déballer tous les jours. Et ça a duré quelques temps. Et puis ensuite, on a acheté un magasin. On a acheté les murs d'un magasin à Annecy. Et là, c'était du sérieux. Là, ça nous a demandé vraiment beaucoup de travail. Ça n'a pas suffi parce qu'on a eu l'occasion d'acheter un pas de porte aussi près d'Annecy, à Rumilly. Et donc, on commençait à avoir peu de temps de loisirs. Tout était mobilisé pour le travail, tout était intense. Et puis, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que lorsque mon mari a débuté dans son boulot, il était sur les marchés dans l'île de Ré. Et il m'avait dit, tu sais, l'île de Ré, quand même, c'est quelque chose d'important. On devrait peut-être essayer de se localiser là-bas. Et il m'avait dit, on va acheter un terrain. Mais à l'époque, c'était avant que le pont existe, c'était avant, vous voyez. Donc, et nous, on se disait, parce que ça, c'était au début de notre vie à deux, hein, on avait dit, tiens, ben, ça serait bien de monter un camping dans cette île de Ré qui est tellement sauvage. Et ça serait certainement intéressant de créer un camping là. Et donc, on avait fait la demande. Et on avait fait la demande de ce camping, espérant quand même nous localiser là-bas. Et voilà que ce camping nous a été refusé. Donc, on avait ce terrain, et puis inutile, quoi. Voilà. Et donc, maintenant, je reviens à l'époque où nous sommes en Haute-Savoie. Et là, on reçoit un coup de fil nous indiquant que la création d'un camping dans l'île de Ré serait la bienvenue. et qu'on peut, on pourrait nous le, l'accorder, sauf qu'il faudrait que ça soit rapide. Eh bien, nous voilà dans l'impasse. Que faire avec d'autres affaires là qui nous mobilisaient jour et nuit pratiquement? Et on nous demande de créer ce camping à 600 km de chez nous. Mais oui, on va le faire. Et on l'a fait. Et on l'a fait en faisant les allers-retours 600 km pendant 6 mois de cette année, puis en se débrouillant de tenir des deux côtés, c'était très dur, très dur. Mais on a réussi. Et ce camping a bien fonctionné, mais vraiment bien fonctionné. Et tellement bien que... Au bout de quelques temps, on s'est dit, mais voilà, les enfants avaient grandi, ils pouvaient nous apporter de l'aide et tout. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ce camping, il faut le développer maintenant parce que le pont va être construit. On a fait un vote dans la famille. Qui est pour, qui est contre? Aller vivre à l'île de Ré définitivement. Et puis... vendre toute notre affaire. Et... Alors, imaginez-vous que ce vote, ben, il n'a pas eu de succès. Hein. Négatif. Les enfants ont voulu revenir en Haute-Savoie parce qu'ils avaient tous leurs copains. Pour eux, c'était la Haute-Savoie et pas l'île de Ré. Donc, c'est là qu'on a vendu l'île de Ré. Voilà. On a acheté un hôtel là au bord du lac, à côté d'Annecy, là, qui a très, 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 très bien marché. Et que nous avons, à ce moment-là, on a commencé à nous relâcher un peu, on a commencé à prendre du bon temps, on a délégué nos enfants qui ont pris la suite, et voilà.
Depuis cette rencontre, dès qu'un avion passe au-dessus de nos têtes, on se demande si une autre Maryse est en train de vivre des aventures incroyables. L'audace de Maryse continue encore aujourd'hui d'imprégner notre quotidien. Merci Léna de nous avoir présenté ta super grand-mère.
Vraiment, vraiment, j'ai une belle vie. J'ai une belle vie, ouais.
Mamie dans les orties est un podcast réalisé par Marion Debois et Héloïse Pierre. Si l'envie vous démange, après avoir été piqué par les orties de cette vie de mamie, de partager l'épisode, de mettre plein d'étoiles sur Apple Podcasts ou simplement d'échanger avec nous une tasse de thé sur Instagram ou Twitter, surtout allez-y. Trouvez-nous sur les réseaux @mamiepodcast et par mail à bonjour@mamiedanslesorties.co. À bientôt!
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.